des visages de l'Algérie, traverser ses couleurs, raconter ses légendes, ses dents, des villes et des histoires. Des villes et des histoires, une émission produite par Malika Lafer, réalisée par Saïd Bouterfa.
Alassane-l-Ouest se trouve à 39 km du chef-lieu de la wilaya de Bourg-Bouarérej, à une altitude de 1010 mètres par rapport à la mer. L'administration coloniale s'y est installée dès 1892. Elle porta le nom de l'historien et politique Tocqueville, qui a écrit plusieurs ouvrages sur l'esclavagisme. Après l'indépendance, elle reprit son nom, Alassane-l-Ouest. Alassane-l-Ouest, comme l'indique son nom arabe, est la source d'une rivière. Ras veut dire tête de rue. Les eaux qui sont abondantes, le climat salubre, la terre très vaste, de nombreux vestiges romains sur ce territoire attestent de sa richesse passée, ruines de Tamaboula, la romaine. On écoute monsieur le maire, monsieur Belalmi Khalifa. Alors, monsieur Belalmi Khalifa, vous êtes président de l'APC de la Silhouette, qui se trouve donc à 30 km du chef-lieu de la wilaya de Bourg-Bouarérej. Merci de nous avoir baladé justement dans la commune de la Silhouette. Alors, la première question que l'on se pose, la mairie qui se trouve à la Silhouette est entourée de vestiges romains, qui impliquent une présence romaine bien avérée.
Tout d'abord, je vous remercie de votre visite, de nous avoir accordé un peu de votre temps. D'abord, je tiens à vous donner un peu sur la région, surtout dans la Silhouette, qui se trouve au sud-est du chef-lieu de la wilaya, à peu près à 39 km du chef-lieu de la wilaya, qui s'étale sur une superficie de 140 km², à une altitude de 1100 mètres par rapport à la mer, bien sûr. Elle compte dans les 60 000 habitants. Elle avait pour nom, on cite Amoulala, par rapport à la présence romaine dans la région, devenue par la suite, avec la colonisation, un centre colonial appelé Tocqueville, à partir de 1892. Et à partir de 1912, elle est devenue une commune en plein exercice. Elle avait une présence turque à partir de 1515, comme les autres territoires algériens. Après, après l'indépendance, elle a repris son nom, qui est Rassoued actuellement. À propos de votre question, il y avait une présence romaine, comme le démontrent les vestiges que nous avons mis ensemble. Présence qui a duré peut-être, c'était une ville ou une garnison romaine dont les vestiges attestent de la présence dans la région, qui était jadis une région très vaste, verdoyante, avec des sources d'eau très importantes.
Alors, monsieur Belalmi Khalifa, C'est vrai, effectivement, comme vous venez de dire, les Romains sont venus, ils ont exploité la terre, ils ont planté le blé, il y avait de l'eau. Ensuite, quand la France est arrivée, effectivement, elle a ramené des colons pour travailler aussi la terre, et justement, les Algériens ont été dépossédés de leurs terres.
Sachez, madame, que la région de Rasoued était le grenier du blé et qu'elle avait des potentialités agricoles très importantes. D'ailleurs, elle a pris cette vocation agricole. Et c'est pour ça que, même après les Romains, les Français l'ont colonisé pour exploiter ces terres et pratiquer de l'élevage bovin et ovin.
Alors ici, quand on voit l'élevage ovin et bovin dans la région, il y a des étendues de blé. Elle a repris Yanné ses lettres de noblesse, la Rasselwed. Mais elle a été aussi, c'était une région minière.
Effectivement, il y avait une mine qu'on appelait la compagnie minière de Mzaïta qui employait beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est grâce à cette exploitation minière que Rasselwed est devenue une commune, à l'époque bien sûr de la présence française. Bon, il y a aussi des potentialités non exploitées encore et que nous espérons y mettre pour au moins enrayer le chômage pour une population que nous avons, une population très très jeune et à forte proportion de jeunes.
Alors, vous parlez de mines, quel genre d'exploitation minière?
Nous avons des terres, des produits argileux, des potentialités de terres argileuses, en quelque sorte pour les produits rouges. Nous avons des gisements qui peuvent être employés dans la cimenterie, en dehors des phosphates aussi. La compagnie de Mines Zeta, et on extrait le phosphate.
Alors, je rappelle que je suis avec Monsieur Belhelmi Khalifa. Vous nous avez servi de guide. Vous aimeriez qu'il y ait des investisseurs qui viennent s'y installer, parce que la terre aujourd'hui, elle est un peu désertée par les jeunes. C'est un travail dur que les jeunes ne veulent plus.
Certes, les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas travailler la terre. Et à cette raison-là, nous souhaitons que des investisseurs s'y installent pour au moins absorber une grande partie du chômage pour occuper ces jeunes-là, qui ne voient que l'avenir un peu sombre, de toute façon.
Alors, on passe comme ça brièvement des pages d'histoire. Ici, c'était la Wilaya 3. Il y avait le Hawass et Amerouche. La région a payé un prix très fort à la lutte de libération nationale. Vous nous avez fait visiter le carré des martyrs de soldats inconnus parce que vous avez trouvé un charnier.
Beaucoup de charniers, de toute façon. La région de Rasselwed, y compris l'ex Daïra, qui comprend ou le Baraham, et ainsi de suite, avait participé à la guerre de libération et a payé un lourd tribut pour libérer l'Algérie. Et un grand nombre de ses fils ont tombé au champ d'honneur. Même certains shuhada ne sont pas de la région et qui ont participé à la guerre de libération au niveau de cette région et se trouvent enterrés dans le carré de martyrs que vous venez de visiter.
On a aussi visité la maison du regretté Bachir Ibrahimi. On sait que c'est l'un des fondateurs de Jumaït al-Ulama, qui a été créé dans les années 20. Alors Bachir Ibrahimi a été donc le fondateur, comme je disais il y a quelques minutes. Il a apporté un courant de pensée. Il y a une association qui existe. Si vous pouvez nous parler un petit peu de Cheikh Ibrahimi. Et puis vous nous avez dit hors antenne que le ministère de la Culture a dans son projet un musée dédié à Cheikh Bachir Ibrahimi.
Nous espérions bien, de toute façon, que qu'une attention soit portée sur cet érudit. C'est un enfant de la région et qui a beaucoup apporté à l'Algérie. C'est l'un des fondateurs du mouvement national algérien, avec Ben Badis, et l'un des plus éminents penseurs et réformateurs, bien sûr, pour perdurer la pensée de cet éminent personnage. Nous espérons bien que un édifice, un monument, soit édifié à la place de sa maison actuelle. Et nous espérons bien que les autorités pensent organiser un colloque international sur le personnage.
Alors, je rappelle que vous êtes donc le président de l'APC de Rasselwed, donc une implantation de projets structurants aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il y ait à Rasselwed?
Bon, concernant Rasselwed, nous aimerions avoir nous avons beaucoup de projets. Et nous aimerions bien qu'ils soient concrétisés. En temps opportun, nous demandons une aide conséquente une attention particulière à cette région qui a beaucoup donné à l'Algérie et qui compte un grand nombre de shuhada. Et afin de la faire sortir de cet isolement, nous espérons avoir une maison, de culture, un complexe culturel, bien d'autres choses qui peuvent rendre service surtout à notre jeunesse, qui est majorité de la population.
تونس بيك دار بلا بيك ديما ظلمة لومي ما الفرح ما عليك اي لومي ما الفرح ما عليك
Natif de Ras El Oued, M. Soualem Darradji, féru d'histoire et amateur de cinéma, président de l'association El Quasar sur l'astronomie, auteur de plusieurs ouvrages. En 1968, avec ses compagnons, il se lance dans la bande dessinée pour lutter contre l'idéologie diffusée insidieusement par la bande dessinée occidentale. À l'époque, le Front de Libération Nationale a entrepris la publication régulière d'une série dont les textes et les dessins sont spécifiquement algériens. Dans ces années-là, l'Algérie était en mesure de rejeter ce qui ne lui plaît pas, et elle l'a prouvé en préférant ses propres héros populaires, même s'ils sont puisés dans une mythologie encore récente. 5 albums qui demandent qu'à être réédités pour les besoins de l'histoire. On écoute M. Soualem Darradji. Monsieur Soualem Darradji, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, depuis 1985, vous êtes président de l'association Quasar sur l'astronomie et vous êtes également l'un des fondateurs de la bande dessinée créée en 1968 ici à Borj-Bouarelej. Quand je dis à Borj-Bouarelej, c'est-à-dire qu'au niveau de toute l'Algérie, vous étiez l'un avec vos compagnons. Alors, Monsieur Soualem Darradji, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la bande dessinée?
Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à faire une interview avec vous. Et c'est un art qui est la bande dessinée.
Vous avez été certainement amateur avant l'indépendance. Ensuite, on parlera des personnages que vous avez créés.
La création de la bande dessinée, dans les années 50, du même 60, j'avais un amour à la bande dessinée. J'ai voulu réaliser.
À l'époque, l'amour que vous aviez pour la bande dessinée, quels étaient les personnages que vous lisiez?
Alors là, c'est la bande dessinée universelle.
Seulement
en français, bien sûr, universelle. La bande dessinée italienne, la bande dessinée comme Black Rock, par exemple. Petit Tarou, une cinquantaine de numéros. Ouais. Et je vendais même de la bande dessinée à l'époque, devant les cinémas. Les jeunes de mon âge, ils lisaient la bande dessinée, même s'ils étaient analphabètes.
D'accord. Ils étaient attirés par les dessins?
Non, parce que c'était... maintenant, on peut lui donner un nom. C'était le cinéma du pauvre. Ou à l'époque, on s'intéressait au photoroman. D'ailleurs, le photoroman, il a été créé par les Italiens à l'époque. On voyait un film tous les 2 mois, 3 mois... où les gens s'intéressaient, la jeunesse, même les gens âgés. Ils étaient haussement intéressés. Alors, ils trouvaient la bande dessinée à leur portée. Ils achetaient Buck John, Tarou, la bande dessinée qui se vendait en Algérie, à l'époque.
Alors, 1968, ici à Bourges-Boirirège, c'est la création au niveau national de la bande dessinée. Et grâce à vous et à d'autres compagnons, vous publiez dans un journal Jeunesse Action, vous publiez votre première bande dessinée. Donc je vais citer M'Sid, qui était l'histoire d'un petit cireur qui était en pleine lutte de libération nationale. Il y avait ce personnage Dja, un personnage un peu cynique, qui fait partie de la tradition. Yanni Dja, on le connaît, avec un peu rusé et tout. Et il y avait aussi l'inconnu aux trois qualités qui évoluait à l'époque romaine. C'était des scénarios que vous écrivez vous-même. Et finalement, c'était toute l'histoire de l'Algérie, puisque vous remontez à l'époque romaine jusqu'à la lutte de libération nationale.
La bande dessinée, elle a naquit dans le journal Algérie Actualité, en 66, le journal Moujahed. Lui, il publiait les bandes dessinées de Slim, de Zid Abou Zid. On a voulu créer à l'époque un journal qui comporte un certain nombre de bandes dessinées, réalistes et caricaturales. En 67, on a commencé en tant qu'amateur, non lucratif. On a créé le premier journal ronéotypé. Parce que ronéotypé, il faut être à l'époque fou pour, surtout pour le dessinateur.
Vous étiez l'un des fondateurs donc, de la bande dessinée. Vous écriviez des scénarios. Mais qui était le dessinateur ?
Dessinateur, il y avait un jeune, c'est Souhli Abdelhamid. Ahmed Di Abdelhamid. À l'époque, je rêvais de faire de la réalisation de cinéma.
Ah, d'accord.
16 mm aussi.
Alors, pour les moins jeunes, se souviennent que juste après l'indépendance, la Révolution a voulu à ce que le cireur n'existe plus. Parce que pendant l'époque coloniale, il y avait des petits cireurs. Ça représentait, il y en a, toute la répression de la France. Ouais. Petits cireurs analphabètes. Vous avez eu l'occasion de les rencontrer, en tout cas ces petits cireurs
et de les volontaires 1960.
et de les alphabétiser, c'est-à-dire qarihom. Et finalement, c'est là où vous avez eu envie d'écrire le scénario M'Sid, parce que M'Sid, c'est l'histoire du petit cireur qui finalement il est là, il est rusé, il crée des attentats et tout ça.
D'ailleurs, le nom, je l'ai choisi, je travaillais déjà à M'Sila. J'allais donner le journal qu'on allait créer, pas la bande dessinée. Le journal, peut-être, qui comportait les bandes dessinées. Alors, j'ai regardé, comme nous étions jeunes, c'est pour les jeunes qu'on allait créer ce journal-là, Jeunesse Action. J'en ai donné un nom qui n'est pas ordinaire. Dès que l'époque, il se met riche, il se met l'Ukraine. Mais il faut quelque chose de, bien sûr, qui n'est pas ordinaire. Alors, on dit M'Sif. Quand j'étais jeune, on était passionné, la génération de Kloart, avec Black Lorok, le petit rappeur. C'était pour l'indépendance, c'était les États-Unis. Et au lieu que ce soit le petit rappeur, le petit cireur, je n'avais pas une idée précise du développement du personnage. Mais en même temps, il représente la prise de conscience du peuple algérien. Pas ordinaire, un personnage. Ça, c'est l'orientation que j'ai donnée au personnage. Oui, troisième idée, peut-être ambitieuse, Allah, j'allais passer la révolution algérienne à travers la bande dessinée. J'avais une culture cinématographique. J'étais passionné. Cinéma italien. Il y a un cinéma italien où il n'y a pas de héros.
Les années 50, c'était alors, après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Italie qui s'était remise en question.
Il ne faut pas oublier Blimsit. le langage algérois, c'est une école.
Et Djihad.
Djihad, j'ai pris le nom célèbre. Célèbre dans toutes les cultures, hein. C'est pas une culture tunisienne ou la algérienne ou la arabe ou la mongolie, qui est partout, je savais.
C'est le personnage rusé.
Mais là, je l'ai détourné, خلاص. J'ai détourné le rôle.
C'est-à-dire,
Djihad, il est connu, d'abord, c'est un malin, méchant. J'ai gardé le côté méchant. Et lorsqu'il joue des tours, il ne faut pas oublier que les bandes dessinées que j'ai faites sont engagées. À travers Djihad, j'ai fait une grande bande dessinée qui relatait les événements à 67.
C'est-à-dire la guerre des six jours.
Une grande bande dessinée fait d'accord. Il y avait des Jeunesse Action, le journal, contenu d'autres bandes dessinées.
Alors, M. Soualem Darraji, l'un des fondateurs donc en 1968, et la bande dessinée s'est arrêtée en 1975. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que d'abord, l'éditeur, c'était le secrétaire national, lui qui s'est proposé d'éditer le journal à l'époque. Comme et c'était le secrétaire national de la JFLN. En 75, ils ont unifié la jeunesse, c'est-à-dire les étudiants, les scouts. Le secrétaire, il a arrêté l'OSMO. Soi-disant, il n'avait pas de moyens.
Oui, alors je rappelle le nom du journal, c'était Jeunesse Action qui publiait donc la bande dessinée. Quel était le rythme de la publication? Il paraissait tous les combien?
Mais en principe, c'était chaque mois. C'était un exploit d'éditer à l'époque. L'Algérie n'avait pas de moyens à l'époque. Même Qidesh, le journal qui est officiellement le premier journal algérien, il est publié en Espagne. L'équipe était dirigée par un metteur en scène.
Vous étiez très féru d'histoire.
Là, nous étions deux. On ne trouve pas, même généralement dans le monde, dans le cadre de la bande dessinée, on ne trouve pas un dessinateur qui dessine le réalisme et le caricatural.
Dans vos bandes dessinées, c'est de l'histoire algérienne, hein? Est-ce que ça avait un succès?
Succès, c'est phénoménal à l'époque. L'Algérie, vous le connaissez.
Vous tirez combien d'exemplaires par mois?
À l'époque, 20 000, si je me rappelle bien. À l'époque, les gens, la révolution, surtout majoritairement, ils lisaient la bande dessinée avant. Alors, un journal qui parle de la bande dessinée, tandis que les journaux qui sortaient, c'était pas véritablement de la bande dessinée. C'est pas pour des dessins illustrés. C'est la bande dessinée ou des dessins illustrés. C'est le suspense qui est la caractéristique de la bande dessinée universelle. La bande dessinée qu'on éditait, il répondait au canon de la bande dessinée universelle. Pas de manichéisme. Il faut lire les scénarios. Justement, il sortait de ce qui se faisait en Algérie, qui avait ses règles, les personnages.
Mais quelles sont les règles fondamentales? C'est quand même, ils finissaient toujours par être des gagnants, des héros.
Et des héros, non. Ce n'est pas un héros. Un Algérien, non.
Il est un combattant.
Il est devenu, parce que entre le lecteur, il devient un héros. À travers Msid, le personnage, le jeune garçon, c'est l'Algérie, on parle de l'Algérie. Un héros bien défini. D'ailleurs, le premier épisode, il s'intitule « Les héros anonymes ». C'est fondamental.
Il y a une évolution. L'inconnu aux trois qualités, d'abord, pourquoi ce titre? On raconte l'histoire romaine, on sait qu'en Algérie, on a eu des Romains, les Byzantins, les Vandales.
C'est-à-dire les personnages sont connus. La bande dessinée, l'inconnu des trois qualités, lui, c'était un héros.
D'accord.
Le personnage,
d'accord.
À travers lui, relatait l'époque chouïa romaine.
D'accord. Alors, Monsieur Soualem Darraji,
c'est une fiction.
Oui. Alors, on a compris que 1975, tout s'est arrêté. Il y a 5 ans, vous vouliez rééditer toute cette bande dessinée, mais vous avez des difficultés. Pourquoi?
On avait l'intention de...
Et aujourd'hui?
Il y a 4 albums qui sont entreposés au ministère de la Culture pour être édités.
Vous attendez?
On attend. 2008. Ils sont entreposés là-bas.
L'année 2010 vous portera bonheur ?
Bonheur, on espère. Le bonheur, qu'il soit réédité, c'est notre bonheur, bien sûr. C'est...
Pour l'histoire, en tout cas, pour l'histoire.
L'insurrection de 1871, résistance armée face à l'occupation française, l'attachement à la terre algérienne, la défense de l'islam menacée, la révolte de grands chefs traditionnels humiliés, telles furent les principales causes du soulèvement multiple qui finirent par gagner une grande partie de l'Algérie. Les insurgés subirent une répression terrible. La puissante tribu des Mokrani, installée dans la Mejana, n'avait cessé de voir décliner son importance. Le Bachara Mohamed el-Mokrani avait subi toute une série d'atteintes et d'humiliations. Installation d'un officier français aux Borges de Tazmalt, perte de ressources fiscales traditionnelles en 1858, confiscation progressive de ses terres domaniales. Le 6 avril 1871, devant tous les Mokaddams de la Rahmaniya, convoqués à Sadour, le Cheikh Al-Haddad proclama le jihad. C'étaient tous des combattants disciplinés, organisés par unité, ayant chacune à sa tête un chef et une sorte de commissaire politique, un mokaddam porte-drapeau, toujours présent dans le combat et dirigeait la prière commune. La répression fut terrible, les résistants furent considérés comme des bandits. Ils durent payer de fortes contributions de guerre. Le trésor français avait recouvert 35 millions de l'époque. Les terres des sujets indigènes furent frappées de séquestres. Cette mesure toucha toutes les tribus insurgées. On retrouve M. Mokhalani.
Alors, monsieur Mokrani El-Aïd, vous êtes écrivain chargé de la communication au niveau de la wilaya. Vous êtes un descendant des Mokrani et président de l'association de Mokrani. Pour faire un bref historique, en 1853, Mohamed El-Mokrani, qui succéda donc à son père avec le grade de Bachara de la Mejana. Alors, il était fort cavalier de la Légion d'honneur. En 1861, il devient membre du Conseil général de la province de Constantine en 1870. Et on connaît là, en 1971, El-Mokrani lancera les tribus dans une formidable insurrection qui durera 9 mois aux portes d'Alger, à l'ouest et au sud, jusqu'à Boussaada. Mohamed El-Mokrani tombera donc au champ d'honneur le 5 mai 1871, près de Ain Bessem. Il fut enterré donc à la Qala'a d'Ibn Abbas, je crois, qui n'est pas très loin d'ici, de Bourges. Alors, lorsqu'on arrive ici, on voit le château de El-Mokrani, qui n'est pas un château qui ne lui appartient pas, dont il a habité.
Bien, pour parler de la personnalité de Hajj Mohamed El-Mokrani, le guide, si vous voulez, le chef de l'insurrection politico-agraire de 1871, je crois qu'il est nécessaire de revenir quand même un peu en arrière dans l'histoire. Hajj Mohamed El-Mokrani est un descendant de Sidi Bitra, cheikh de la Mejana. Sidi Bitra, pour vous situer dans l'histoire, il est mort en 1780. Sidi Bitra lui-même est le fils de Sidi Nasser, qui a été assassiné à la Qala'a de Ben Abbas en 1600. Sidi Nasser lui-même est descendant du fondateur de Qala'a, les premiers fondateurs de Qala'a de Ben Abbas, Sidi Abdelrahman, Sidi Abdelaziz, Sidi Abbas et Sidi Ahmed Amqaran, qui donne, si vous voulez, le nom éponyme à cette famille-là. Cette famille-là, elle a régné d'abord dans le cadre de la principauté de Qala'a de Ben Abbas, 1510 jusqu'à 1600. Ensuite, leur capitale a été transférée à ce qu'on appelle la Mejana, très célèbre. Et on ne parle plus à partir de la Mejana de principauté, mais on parle de Meshiacha, la Sheikha de Mejana. C'est l'appellation historique, si vous voulez.
Pour bien comprendre, c'était pendant l'époque coloniale, c'était la dynastie des Mokrani, qui possédait un certain pouvoir et une certaine richesse, à savoir des terres et...
C'est pour un peu situer, si vous voulez, la configuration historique de la région. Donc, avec la présence coloniale, d'abord, les Mokrani étaient très liés au beylicat de Constantine. Il y a beaucoup de beys qui avaient des relations familiales, si vous voulez, des relations matrimoniales avec les beys, très attachés au beylicat de Constantine. Ils travaillaient pour le compte du beylic de Constantine, vers les années 1800, etc. Quand la France est rentrée, les Mokrani, bien sûr, se sont... rangé avec le dernier bey de Constantine pour son insurrection à l'est.
Ensuite, avec l'échec de cette insurrection, ils étaient obligés d'être investis par le pouvoir colonial, avec le Hadj Ahmed. Le Hadj Ahmed, il est mort vers les années 60, et il a, bien sûr, comme vous venez de le dire, son fils aîné, c'était le Hadj Mohamed Mokarani. Il avait le titre de Béchara. Vers la fin des années 60, c'est-à-dire les causes de l'insurrection de 1871, il y a eu des causes, si vous voulez, autochtones, locales, et des causes internationales, si on peut dire. Bien sûr, la présence coloniale commençait à se diriger vers une colonie de peuplement. La population algérienne, avec la famine de 68-69, elle a subi presque un véritable génocide. Les catastrophes naturelles, les sauterelles, la famine. Le Hadj Mohamed Mokarani, historiquement, il avait une responsabilité vis-à-vis de ces populations. C'est une responsabilité. Un historien a dit qu'il avait un fardeau historique. Parce qu'il était redevable de cette population depuis peut-être 3 ou 4 siècles. Avec aussi la fin de l'Empire français, Napoléon III, avec la guerre avec la Prusse, il y a eu le pouvoir civil, le pouvoir républicain, la Troisième République. Et il y avait aussi la naturalisation des Israélites, des Juifs d'Algérie, des Crémieux. C'est-à-dire que l'autonomie des populations et le pouvoir lui-même du Béchara commençait à se rétrécir. Et Hadj Mohamed Mokarani a bien vu que la conquête française, qui était elle-même une catastrophe historique, il faut le dire, mais il était conscient que cette conquête vers l'horizon se prolongeait, se dirigeait vers une colonie de peuplement, avec la loi Varnier de séquestre des terres, avec la spoliation des terres. Toutes, si vous voulez, toutes ces causes-là ont conduit le Béchara à prendre une décision. Faut-il continuer dans ce statu quo ou bien faut-il aller vers l'insurrection? Eh bien, il s'est dirigé vers la deuxième solution, il a appelé à l'insurrection avec toutes les causes et les conséquences que ça a suivi.
Alors, monsieur Mokrani, vous êtes donc un descendant. Les mauvaises langues disent que la dynastie des Mokrani était très, très à l'aise et que Mohamed El Mokrani avait décidé l'insurrection à partir du moment où la France a commencé à lui enlever quelques parcelles de terre. Ce sont les mauvaises langues qui le disent. C'est bien simple que quand il a voulu, donc l'insurrection a duré quand même 9 mois, beaucoup de tribus ne se sont pas alliées à lui.
Certainement, les mauvaises langues, de toute façon, ne font pas l'histoire. Hadj Mohamed Mokarani était un chef, si vous voulez, un chef historique, hein, qui a hérité de cette situation depuis 3 ou 4 siècles dans la région. Il est certain que le problème de la terre s'est posé dans les causes de l'insurrection. Et c'est pas quelques parcelles qui décident d'un chef qui a cette responsabilité d'appeler à une insurrection, qui a quand même mobilisé, selon les historiens qui ont étudié la question, près d'un million d'hommes qui se sont insurgés, surtout avec l'appel au djihad de Cheikh Belhaddad. C'est vous dire que la situation était historique. C'est-à-dire la population algérienne, elle était en voie d'extinction. C'est-à-dire que Hadj Mohamed Mokarani n'avait pas d'autre solution que d'appeler à l'insurrection. Même si cette insurrection n'était pas comptée, si vous voulez, n'était pas garantie par des succès militaires, vu la situation des Algériens, vu leur état historique, l'armement qu'ils possédaient, que la population algérienne était au plus bas. Elle était en voie d'extinction. Bien sûr, le problème de la terre se pose, aussi bien pour lui que pour tous les Algériens, parce qu'il y avait les lois du séquestre qui se profilaient à l'horizon. C'est-à-dire que la France, surtout avec la Troisième République, elle avait une intention de colonie de peuplement. Parce que il faut distinguer entre le concept de conquête, où les populations, ils avaient une autonomie avec la déclaration du général de Bourmont, ils avaient une autonomie du point de vue des terres, une autonomie du point de vue des mœurs, une autonomie surtout religieuse, de la langue, et les lois de la colonie de peuplement qui se sont avérées, qui se sont vérifiées avec l'échec de l'insurrection de 1871, où les Algériens sont devenus, avec le code de l'indigénat, le code infâme de l'indigénat, ils sont devenus des indigènes. c'est-à-dire un état historique le plus bas que jamais les Algériens n'ont connu durant leur histoire millénaire.
Alors, M. Mokhrani, on connaît les grandes insurrections, il y en a eu beaucoup d'autres, mais enfin, les plus connues, c'est celle de l'émir Abdelkader, Bouamama et ensuite Mohamed El-Mokhrani. Quelles ont été les conséquences après ?
D'abord, c'est là la distinction. Les premières insurrections algériennes contre la France, la présence française, étaient des insurrections contre la conquête, c'est-à-dire l'arrivée de la France en Algérie. L'insurrection de 1871, c'est la fin du 19e siècle, presque. C'est une insurrection contre la colonie de peuplement, contre la colonisation, c'est-à-dire enlever des terres à des Algériens, les déposséder, les spolier et donner à une population européenne qui vient en masse ici. Ça, il faut que le distinguer. Donc, 1871, c'est une insurrection contre la colonie de peuplement. C'est qu'un peuple remplace un autre peuple sur ces terres. Les conséquences ont été désastreuses. Et ces conséquences-là ont préparé le mouvement national et la révolution de 54, finalement. D'abord, du point de vue des massacres, il y a des familles qui ont été décimées. D'abord, il y a eu des déportations. Le premier phénomène de la déportation que les Algériens n'ont jamais connu dans leur histoire. En Nouvelle-Calédonie, il y a des fuites vers la Tunisie, vers la Syrie. Toutes les familles qui ont participé à cette insurrection ont été touchées par ces phénomènes, des phénomènes nouveaux, la déportation. Ensuite, il y a eu la dépossession complète des terres, totale, à tel point que les Algériens possédaient à peine quelques arpents sur les collines arides ou bien dans les zones montagneuses. Il y a eu le changement du statut des Algériens avec le code de l'indigénat. Les Algériens ne sont plus des sujets de la conquête, mais ce sont des indigènes, avec toutes les conséquences que ça implique. Donc il y a eu un vrai, véritable désastre démographique, comme l'a dit l'historien Djilali Sari. C'est pas un désastre historique, non seulement un désastre historique qui a commencé avec 1830, mais maintenant on parle de désastre démographique. Et avec la famine, avec du point de vue statistique, on parle d'une diminution de la population algérienne autochtone. Une diminution notoire d'un tiers peut-être de la population.
Où se trouvaient les terres de la dynastie des Mokhrani?
Les terres d'El-Mokhrani se situent historiquement sur la plaine de Medjana jusqu'aux confins de Constantine, le Houdna. Mais il faut distinguer que il faut pas voir l'histoire avec la projection de l'ère actuelle. Il y avait les terres, bien sûr, des familles, de familles Mokhrani et d'autres familles, mais aussi il y avait les terres arches. Parce que les Mokhrani ont organisé la région depuis 4 siècles sur cette base-là. Il y avait des terres arches, c'est-à-dire des terres collectives, où les gens du sud viennent pâturer pour leurs troupeaux, librement. Il y avait une concorde. Et il y avait aussi la propriété, si vous voulez, individuelle, mais de type collectif. Et il n'y avait pas le cadastre à l'époque. Le cadastre a été inventé après l'insurrection de 1871, où on a cadastré des terres et on les a distribuées à des colons. Mais avant, les Mokhrani étaient des chefs d'origine, des chefs religieux, ensuite ce sont des chefs temporels. Ils organisaient la région. Bien sûr, c'était des seigneurs, et ils avaient leurs propres biens, mais ils organisaient la région en collectivité, avec le système des terres arches, des terres de passage, de pâturage pour toutes les populations qui viennent ici, et des terres des tribus. Et ils respectaient cette forme d'organisation algérienne, si vous voulez.
Donc une forme d'organisation sociétale. Il y avait le pouvoir, il y avait aussi l'économie, il y avait le militaire, il y avait le juridique, tout cela englobait donc la dynastie des Mokhrani.
Bien sûr, c'était toute une organisation qui est spécifique d'ailleurs au territoire. Peut-être dans d'autres territoires algériens, il n'y avait pas cette notion de terre de transhumance. Mais ici, ils étaient assurés. Et c'était garanti, il y avait une concorde sociale. Il y avait une police. La police et la milice montée, c'est vrai, à cheval des Hichem, qui faisait régner l'ordre. Bien sûr, ça, tout ça, c'est au service, sous la tutelle, bien sûr, de l'Empire ottoman, représenté par le Beylik de Constantine. C'est-à-dire, il y avait un pouvoir central, turc, mais il y avait un pouvoir local qui a été organisé, justement, par les Mokhrani depuis la principauté de Qal'at ibn Abbas. Et il y avait aussi le concept de Hubous, les Zawiya, les maisons d'Arsbil, tout ça, c'était organisé. Ouais. L'humanitaire, si vous voulez, le côté social, humanitaire. Par exemple, ici, elle a survécu à cette époque, Darsbil de Rbi'iyet, au sud de Borj, à quelques kilomètres, 20 kilomètres. C'était une maison qui était ouverte aux éclopés, aux gens qui ont perdu leur famille, aux vieilles femmes qui sont abandonnées. Et il y avait toute une organisation. Faut pas dire que la société algérienne avant 1830, avec l'État moderne colonial, n'était pas organisée. Elle avait son mode d'organisation. Et qui est-ce qui dirigeait tout ça, qui avait en charge ça, historiquement, c'était cette famille-là.
À 7 km de la Silhouette, à Aïn Brahim, une petite maisonnette, elle appartient à Cheikh Bachir Ibrahimi, membre fondateur et président de l'association des Ulama. Il fut l'un des leaders du mouvement de la réforme. Il vécut en Syrie où il étudia et enseigna à l'école Omeyyade. À son retour en Algérie, il contribue aux côtés de Abdelhamid Ben Badis. Ensuite, il s'installe à Tlemcen pour reprendre les idées de l'association. Il se penche plus sur les revendications nationales, puisque la réforme, selon lui, nécessite en premier lieu une réforme politique. Il adopte les revendications du mouvement des Amis du Manifeste et des Libertés et appelle les leaders du mouvement et ses membres à faire de même. Mis sous résidence surveillée à Aflou, au sud de Boussaada, il fut arrêté à la suite de son alliance avec Farhat Abbas en 1945 et s'exile en Orient en 1951. Au lendemain de l'indépendance, il échoue dans sa tentative de reconstruire l'association sans l'appui du gouvernement de l'époque. Il critique aussi l'orientation du pouvoir en place. Il meurt le 25 mai 1965. On écoute M. Mokrani. Alors, on a parlé de toutes ces insurrections militaires, et ensuite, au début du XXe siècle, la lutte a changé de mode. On s'est plus intellectualisé. Et puis, il y a Bachir Ibrahimi, qui est natif de la région. J'aimerais que vous lui rendez hommage en créant la Jamaat al-Ulama. Ça a été une djemaïa intellectuelle, réformatrice, qui a apporté beaucoup, en tout cas en Algérie, plus précisément dans la région.
En effet, djemaïa al-Ulama, il faut la placer dans le contexte de la renaissance du mouvement, ce qu'on appelle le mouvement national algérien. Elle fait partie de ce grand mouvement national pour la revendication nationale au XXe siècle, depuis le début du XXe siècle. Mais c'est en même temps, djemaïa al-Ulama, ça vient en droite ligne, des suites de l'insurrection de Mokrani en 1871. Il faut aussi parler, je crois, il faut situer aussi entre les deux mouvements, le mouvement de l'insurrection militaire par les armes, qui s'est terminé avec l'insurrection de Mokrani et de Ouled Sitchir vers les années 80 du 19e siècle, et le début du mouvement national vers les années 20. Il y a toute une période que l'histoire doit prendre en compte. Ce sont les insurrections individuelles, si vous voulez, et que la presse coloniale a dénommé comme les bandits d'honneur. Mais en fait, ces bandits d'honneur, ce sont des insurrectionnels, mais à titre individuel. Il y a en Kabylie, Neït el-Béchir, Oumri, il y a dans les Chéouia, Ben Zalmat, ici à Borj. Il y a même un Mokrani qui a été déporté à Cayenne, c'était Hafsi Bournen du côté de Yachir, de Medjana, qui a continué la lutte à titre individuel. Mais Cheikh Brahimi, ça c'est vraiment le mouvement national. D'abord, la famille de Cheikh Brahimi était de Ouled Brahim du côté de Ras El Oued. C'est une famille de lettrés et d'agriculteurs, d'ailleurs dépossédés par les lois françaises suite à l'insurrection. Cheikh Bachir Ibrahimi est né en 1889, comme je le disais, il appartenait à une famille d'agriculteurs et de lettrés. Il a été pris en charge par son oncle Silmik, qui était un talib coranique. Il a été pris en charge dans leur village de Ouled Brahim. Ensuite, son père, il a immigré à Médine, Il a immigré vers le début du siècle, vers 1903. Donc, Cheikh Bachir, il a continué ses études dans Médine, au Hijaz, jusqu'à 1913. Donc, en 1913, à Médine, au Hijaz, Cheikh Bachir, le jeune Cheikh Bachir, fait une rencontre décisive qui allait bouleverser sa vie et celle de l'histoire de l'Algérie. Il rencontre le jeune Abdelhamid Ben Badis à Médine. D'après leurs témoignages, notamment celle de Abdelhamid Ben Badis, ils ont passé des nuits à discuter du sort de l'Algérie, de la condition dans laquelle était le peuple algérien. D'après leurs témoignages, ce sont des nuits passionnantes de discussion entre deux jeunes intellectuels qui étaient soucieux du sort de leur pays et qui étaient en même temps sous l'influence de la renaissance musulmane et arabe dans l'Orient à cette époque-là. Parce que c'était l'époque de Nahda. C'est la renaissance arabe au Liban, en Syrie, etc. Cette rencontre, donc, comme je l'ai dit, a été décisive dans la vision, si vous voulez, dans la prise de conscience nationaliste de Cheikh Bachir Ibrahimi. Après Médine, Cheikh Bachir est parti à Damas pour poursuivre ses études et en même temps pour enseigner, parce qu'il a enseigné à Damas. À Damas, il s'est marié avec une dame tunisienne d'origine turque, d'ascendance turque, Halima Choukatli, d'après le témoignage de son fils dans ses mémoires. Après Damas, il a décidé de rentrer en Algérie. Vers les années 30, 31 exactement, hein, toujours avec Ben Badis, ils ont présidé à la création de l'Association des Ulémas Algériens. Qu'est-ce que c'est l'Association des Ulémas Algériens? C'est une association qui a rassemblé toutes les élites, si vous voulez, surtout de culture arabe et musulmane, à cette époque, pour jeter les jalons de ce qu'on appelle l'esprit de réforme, qui a déjà commencé en Orient. C'est-à-dire avec Mohamed Abdou, Cheikh Al-Afghani, ils ont pensé que la Oumma, c'est-à-dire le monde musulman, la nation musulmane, elle a besoin d'être réformée dans ses mœurs, dans ses méthodes d'enseignement, dans sa vision historique, pour s'émanciper d'abord elle-même dans la société et ensuite pour se diriger vers la lutte anticoloniale. Donc en 1931, il y a eu la création de l'association des ulémas avec comme président Cheikh Abdelhamid Ben Badis, qui était né à Constantine de la grande famille des Ben Badis, qui remonte elle-même. En 1931, il y a eu la création officielle de l'association des ulémas musulmans, avec comme président Cheikh Ben Badis, comme je le disais, qui était né à Constantine et qui appartenait à la grande famille des Bimbadis, qui dans l'origine remonte aux Badis des Hammadites, des Hafsides, etc. Et comme vice-président, Cheikh Bachir Ibrahim. Cheikh Bachir avait eu la charge, la mission d'aller développer les missions de cette association à l'ouest du pays. Donc il s'est déplacé, il a résidé à Tlemcen durant toutes les années 30 et les années 40. Il a créé Dar al-Hadith à Tlemcen. Et il a commencé son travail là-bas dans l'enseignement et dans la réforme telle qu'ils étaient définis dans la charte, si vous voulez, les objectifs de l'association des ulémas. Après la mort de Cheikh Ben Badis, la présidence est revenue à Cheikh Bachir Ibrahimi. Il faut dire aussi que Cheikh Bachir Ibrahimi a subi, si vous voulez, les affres de la colonisation. Il a été arrêté, déporté à Eflou pendant un certain nombre d'années. Et vers les années 50, au début des années 50, il a fui le pays, il s'est exilé en Orient, en Égypte, jusqu'au déclenchement de la révolution algérienne. Bien sûr, après le déclenchement de la révolution algérienne, comme on sait, le FLN a fait appel à toutes les tendances, si vous voulez, du mouvement national, l'UEDMA, les ulama, toutes les tendances qui ont intégré ce qu'on appelle le Front de Libération Nationale. Et Cheikh Bachir Ibrahimi est rentré dans le sillage du Front de Libération Nationale jusqu'à l'indépendance. De 62 à 65, il a résidé à Alger. On lui a confié, je crois, la commission chargée de l'arabisation, c'est-à-dire du choix des enseignants d'arabe. Et en 1965, il est décédé à l'air.
Que devient sa maison?
La maison de Cheikh Bachir Brahimi au village de Wled Braham, dans la daïra de Ras El Oued, la wilaya de Borj Baharij, elle a été restaurée maintenant. C'est un site historique reconnu, visité par les gens, par les populations. Et il faut dire que, aussi, que l'association des ulémas a une histoire avec notre région. Parce que la première école, c'est pour ça que je dis qu'il y a ce qu'on appelle un lien historique algérien qui n'est jamais rompu. En 1936, la première école, dès la création des associations de ulama, la première école, après l'école de Constantine, bien sûr, l'école mère, hein, qui a été fondée par Ben Bledis, la première école a été fondée, a été construite à Qal'a de Beni Abbas. C'est pour répondre aux festivités du centenaire de 1830, qui était triomphal, qui a fait croire, si vous voulez, au triomphe de la colonisation française et ce mythe de la civilisation française en Algérie. Ben Badis a voulu répondre à ces festivités qui étaient grandioses, il faut le dire, la France a mis le paquet, en fondant l'école, la première école libre, hein, d'inspiration réformiste, d'inspiration de l'association du ulama à la Qal'a de Ben Abbas en 1936.
Elle brise mon âme quand elle s'approche. Je perds mon calme dès qu'elle s'éloigne. J'aimerais qu'à moi elle s'accroche. Terrifie, terrifie les noirs.
Amour à vous, t'es la secret. Même un peu pour tu l'espérer. J'aimerais qu'elle un peu de tout. Manoir de tout, mais de tout ni.
Je sais, j'en parle trop. Si j'osais, je lui dirais tout. L'Italie est comme un fou.
Elle me voit sans rien me dire. Je l'imagine là dans ma vie. Elle est comme l'air que je respire. Very well, bon, mais...